Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et à la faveur de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition ce 10 mai en France, nous ferons le point sur la loi Taubira. Mais avant, on retrouve notre invité.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Docteur Abdoulaye Mouhamadou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire exécutif du CILS, c'est le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, dont le siège est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le dernier rapport du CILS sur la situation alimentaire et nutritionnelle 2020-2021 et les prévisions saisonnières agro-hydro-climatiques pour les pays de la zone soudano-sahélienne pour la même période n'est pas reluisant. Mais au même moment, le rapport souligne que la production céréalière 2020-2021 est d'environ 74,3 millions de tonnes, soit 0,6% de hausse par rapport à la campagne précédente et de 9% comparé à la moyenne des 5 dernières campagnes.
Oui, il y a ce paradoxe, mais qui trouve son explication d'abord dans des situations conjoncturelles, comme l'insécurité civile qui sévit dans certaines régions, dans certaines zones de la région. Vous avez notamment le lac Tchad, vous avez la zone du Liptako-Gourma, plus connue sous le nom de zone des trois frontières, où il y a beaucoup de déplacés internes, des populations qui n'ont plus accès à leurs champs, au pâturage, et donc ça, c'est une moins-value pour les productions. Vous avez également les conséquences liées à la COVID-19 qui ont fait que la région, à cause notamment de la fermeture des frontières, les échanges intra-régionaux n'ont pas fonctionné comme d'habitude. Évidemment, il y a des raisons plus d'ordre structurel aussi qui sont liées à la démographie. La production agricole augmente, mais on a chaque année plus
de personnes à nourrir.
Et donc, ça neutralise un peu les effets positifs liés à l'augmentation de la production agricole.
Et quelle est la part de l'insécurité dans cette situation par rapport à la sécheresse?
Cette situation est plus liée à l'insécurité parce que si vous voyez dans le rapport, on a indiqué que sur, par exemple, les 17 millions de personnes qui sont concernées, 9 millions sont au Nigeria et ça concerne principalement la zone affectée par l'insécurité dans le nord-est de ce pays-là.
Parlant des pluies, les prévisions météorologiques ne sont pas non plus très rassurantes.
Disons que ça sera une période humide, mais il y aura des périodes de sécheresse plus ou moins longues selon les régions. Mais globalement, c'est une saison pluvieuse qui sera humide et donc on espère une bonne production agricole aussi pour 2021.
Quels sont les pays de la zone soudano-sahélienne qu'il faudra particulièrement surveiller?
Alors, en plus du Nigeria, il y a le Burkina Faso, où on mentionne 2,9 millions de personnes, le Niger, 2,3 millions de personnes. Ça, c'est pratiquement des pays de la zone du Liptako-Gourma. Vous avez également le Tchad, 1,8 million de personnes qui sont également affectées par cette situation. Le Mali également, 1,3 million de personnes. Donc, c'est essentiellement les pays qui sont affectés par l'insécurité. Trois grandes zones vraiment qu'on pourrait considérer comme les zones à haut risque. C'est la zone du bassin du lac Tchad et la zone dite des trois frontières.
Et les enfants sont particulièrement exposés, dit le rapport.
Oui, absolument. Les enfants sont particulièrement concernés parce que les moyens d'existence des populations ont diminué. Il y a les déplacements des populations. Vous savez que ça concerne essentiellement les femmes et les enfants qui sont regroupés dans des sites d'accueil et qui n'ont plus accès à une alimentation diversifiée.
Le CILS a pour mission de rechercher et de mettre à la disposition des États membres des informations fiables, et ceci à temps pour éclairer leurs décisions et les aider aussi à prendre des mesures dans la lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Au regard du dernier rapport, quelles sont vos recommandations aux dirigeants des pays membres pour éviter le pire?
Ce que nous recommandons en concertation avec l'ensemble des partenaires, c'est de faire des mesures anticipatives. Les pays ont des plans de réponse à ces situations de crise, que ce soit sur le plan du point de vue de la situation alimentaire ou alors sur les impacts liés au changement climatique, notamment les inondations. Parce qu'il y aura probablement des inondations dans telle ou telle période, il faut prévoir des déplacements des populations, des digues de protection.
Dans le passé, les États membres ont manqué d'anticipation.
Si je prends le cas des inondations, c'est des politiques foncières, des politiques d'aménagement qui sont là depuis plusieurs années. Et on se rend compte que les gens n'ont pas forcément pris les bonnes décisions.
Des mesures qui ne sont plus adaptées.
Qui ne sont plus adaptés, il faut revisiter tous ces plans d'aménagement des villes, de l'assainissement des villes.
Docteur Abdoulaye Mouhamadou, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Secrétaire exécutif du CILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, à Ouagadougou.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
18h14 à Paris, merci d'être avec nous et dans votre émission ce soir, nous parlons de la commémoration ce 10 mai en France de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Et à cette occasion, nous faisons le point sur la loi Taubira qui reconnaît la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, cette loi qui a 20 ans ce 10 mai. Et nous en parlons ce soir avec trois invités. Professeur Hamzat Boukari Yabara, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste de l'Afrique et notamment auteur de la littérature de jeunesse, image et support d'un enseignement historique de la traite et de l'esclavage des Noirs et institutionnalisation de la traite négrière. Vous êtes à Paris. Également avec nous, Rudy Kazi Matika. Bonsoir, monsieur Matika.
Bonsoir, vous m'entendez bien?
Parfaitement. Conseiller municipal Saint-Germain-les-Arpajons et auteur de la journée de commémoration du souvenir de l'esclavage et de son abolition. Vous êtes également à Paris. Et nous avons le plaisir d'accueillir de Brazzaville, la capitale de la République du Congo, professeur Aimar Massamba. Bonsoir, professeur Massamba.
Bonsoir, madame.
Bonsoir. Vous êtes historien, professeur d'histoire géo au lycée de la Révolution de Brazzaville. Je voudrais commencer par vous, professeur Yabara, qui êtes historien. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quels ont été ces 10 dernières années les changements visibles à mettre à l'actif de cette loi Taubira qui avait été qualifiée d'historique à son adoption en 2010?
Oui, alors, dans les changements visibles, il y a donc une journée de commémoration qui est aujourd'hui largement institutionnalisée et qui permet donc à tout un chacun de commémorer cette histoire-là. Il y a également le fait qu'au niveau des programmes scolaires, notamment du lycée, mais également du collège et des petites sections, le thème de l'esclavage est davantage mis en avant de manière transversale à travers les programmes d'histoire, à travers les programmes de philosophie, les programmes également de français. Et donc, il y a, je dirais, un certain nombre de mesures qui ont été mises en place aussi dans les départements spécifiquement concernés par cette histoire, notamment la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane, où on essaye bien de remettre en avant la part, telle que la loi Taubira le demandait, la part qui revient en termes d'enseignement à cette histoire-là. Donc, pour le moment, on a principalement des avancées du point de vue donc symbolique, du point de vue de l'enseignement et puis du point de vue de la recherche, puisque depuis 10 ans, on a quand même un certain nombre de travaux et de thèses qui ont été publiées et faites sur la thématique de l'esclavage. Et là, très récemment, vient d'être mis en ligne une base de données qui répertorie les personnes qui ont bénéficié des indemnisations au moment de l'abolition de l'esclavage de 1848.
D'accord. Monsieur Matika, est-ce que vous partagez ce que vient de dire Monsieur Yabara, qui semble, il n'a pas utilisé le mot, mais il semble dire qu'il y a des changements concrets qui ont été observés, mais d'autres experts estiment que l'enseignement, qui devait être l'un des changements notables qu'apporterait cette loi, n'est pas tout à fait encore au niveau qu'on en espérait.
Oui, tout à fait. Si vous regardez dans le détail de plus près, l'enseignement qui est prodigué en matière donc d'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire en fait la mémoire de l'esclavage et le souvenir donc de son abolition, est quelque chose qui est particulièrement peu développé. Vous allez voir en fait que c'est plus développé notamment dans les Outre-mer. Donc ça veut dire à différents niveaux en fait d'études, notamment donc de premier cycle, hein, mais en ce qui concerne la France métropolitaine, la France hexagonale entre guillemets, vous avez davantage de choses qui sont développées en matière donc d'abolition de l'esclavage, surtout dans les lycées professionnels. Et je précise le propos parce que à l'école, bien évidemment, on parle de l'esclavage et de l'abolition de l'esclavage, mais effectivement, ce n'est pas suffisamment approfondi. Et il y a une partie qui est plus ou moins oubliée, pour ne pas dire occultée, c'est la partie donc où, effectivement, l'empereur Napoléon Bonaparte a remis l'esclavage a rétabli l'esclavage et effectivement toute cette partie qui concernait les luttes contre le rétablissement de l'esclavage, je cite des Toussaint l'Ouverture etc. Et cette partie ne figure pas en fait dans le détail entre guillemets hein, dans les manuels et dans les canaux donc donc d'enseignement notamment dans la France hexagonale. Mais effectivement dans l'outre-mer c'est une chose qui est davantage.
Et justement il y a certains historiens qui regrettaient le fait que ce n'est pas le même contenu sur cette question-là qui est enseignée aux élèves de DOM-TOM que ceux qui sont dans la métropole.
En plus dommageable parce que vous voyez, on veut pas. Enfin, moi, je suis un homme politique, donc je suis conseiller municipal. Je n'ai pas envie de faire des chasses aux sorcières. J'aimerais plutôt pouvoir tabler sur la bonne foi et la bonne volonté du gouvernement en matière donc de lutte contre le racisme, mais aussi dans ce devoir de mémoire qui concerne l'histoire de France. On parle d'histoire de France, on parle pas que de l'histoire de l'outre-mer et de voir que c'est davantage l'outre-mer qui est concerné. Alors, c'est normal puisque c'est sur ces terres que se sont déroulés l'esclavage. Évidemment, mais les descendants de l'esclavage ne se trouvent pas que en Outre-mer et les héritiers de cette histoire se trouvent aussi en France métropole et ils peuvent être aussi noirs, aussi blancs que dans toutes les couleurs. Donc on a l'impression qu'il y a comme une volonté en fait de séparer les histoires et les mémoires, ce qui ne va absolument pas dans le sens donc de cette volonté d'avoir une journée nationale du souvenir de l'esclavage et de son abolition qui concerne l'histoire de France. Donc je trouve Merci. Que c'est dommageable et en matière donc d'avancer par rapport à la loi Taubira, ben là-dessus, on voit qu'il y a encore du chemin à faire.
Professeur Massamba, vu de Brazzaville, hein, quelle est votre perception sur ce que viennent de dire vos deux collègues concernant la façon dont l'histoire de l'esclavage et de la traite est enseignée aux élèves français ?
Merci, madame, pour la parole. Je ne connais pas en profondeur le contenu de la loi Taubira. Mais par rapport à ce que vient de dire mes deux confrères, mes deux collègues, eh bien, je pense plutôt qu'il n'y a pas assez d'avancées dans la pratique, dans l'exécution, par rapport aux propositions de cette loi, d'autant plus que les décideurs politiques ou les principaux animateurs ne sont pas du tout les victimes de cet esclavage. Alors, ceux qui ont subi cet esclavage, ceux qui sont les principaux concernés, ne sont pas des animateurs. Ils n'ont pas le pouvoir de faire avancer les choses. Voilà pourquoi, à mon avis, je pense plutôt par rapport aux deux collègues, qu'effectivement, oui, il y a encore beaucoup à faire, parce que les véritables victimes, les principaux concernés, ne sont pas en première ligne pour décider et pour faire avancer les choses.
Et à Brazzaville, ou un peu plus globalement, évidemment, au Congo, puisque là, le système éducatif est unique, comment enseigne-t-on dans les écoles, notamment, et les lycées, l'histoire de la traite négrière ?
L'histoire de la traite négrière dans mon pays est enseignée en classe de quatrième au collège, en quatrième et puis au lycée, en première. Mais on parle beaucoup, rien que des causes, des conséquences, c'est plus du mouvement abolitionniste. En fait, le contenu n'est pas du tout important pour impulser, pour pousser les jeunes, les élèves à s'imprégner davantage de cette histoire de la
Qu'est-ce qui manque à ce contenu d'après vous? Qu'est-ce qu'il aurait fallu ajouter pour aller aussi loin que vous le dites ou vous l'espérez?
Bon, d'abord, madame, c'est un problème du système éducatif. Aujourd'hui, je pense que notre système éducatif dans ce domaine a beaucoup de manquements. Il manque beaucoup de choses dans ces chapitres. Par exemple, on ne parle pas assez. On ne parle pas assez des combats menés par les esclaves noirs des Antilles, comme les Toussaint Louverture.
Contre leur maître aussi.
Contre leur maître. On sait tout seulement en passant que voilà, Toussaint Louverture était à la tête d'un mot. Donc, on sait tout seulement, mais on ne va pas en profondeur pour montrer aux enfants comment ces gens-là se sont sacrifiés au prix de leur sang pour réclamer la liberté.
Merci.
Et c'est vraiment insignifiant.
Professeur Yabara, est-ce que également dans l'enseignement de l'histoire de la traite négrière en France, on y va un peu comme si on marchait sur les œufs ou comment appréciez-vous la part de ce qui est enseigné aux élèves français par rapport à cette histoire?
Écoutez, comme ça a été dit, c'est quelque chose qui est vu de manière très transversale, c'est-à-dire qu'on le voit un peu en passant quand on parle de l'esclavage dans l'Antiquité, on va un peu parler de ce concept-là. Quand on parle des Lumières, on va rapidement parler de la face cachée, mais il n'y a pas vraiment d'approfondissement. D'une part parce que c'est une histoire qui gêne énormément encore au plus haut niveau, et d'autre part, c'est une histoire...
Qui exactement la classe politique, Christian Taubira estime qu'on ne va pas aussi loin à cause des réticences de la classe politique. Pour vous,
Oui, parce que tout simplement, l'enjeu de cette loi, c'était de poser la question des réparations. Et cette question des réparations a été évacuée de la loi. Et on voit bien que si on ne va pas au bout, justement, de cette logique de réparation...
Excusez-moi, professeur, là encore, il y a un gros débat entre les associations même sur cette question de réparation, ce qui fait l'affaire des politiques qui se réfugient derrière ce que César avait dit. Je permettrais qu'on revienne dessus tout à l'heure. Si je peux me permettre, ce que je souhaitais savoir, c'est qu'est-ce qui est enseigné exactement aux élèves français concernant l'esclavage et la traite négrière, et êtes-vous satisfait de ce contenu?
Mais on ne peut pas être satisfait de ce contenu. Ce qui est enseigné est très léger. On va parler de 1848 en parlant de la Seconde République, mais on ne parlera pas de l'abolition de l'esclavage. Quand on va en parler, on va parler de Victor Schœlcher et on ne parlera pas des résistances qui ont provoqué l'abolition de l'esclavage. On ne parlera pas de la première abolition de l'esclavage, qui n'est pas celle de février 1794, mais celle d'août 1793, qui a été provoquée à Saint-Domingue par les esclaves eux-mêmes. Donc il y a vraiment une chape de plomb sur les éléments.
Mais comment la décision du contenu a été faite? Est-ce qu'il y a une équipe?
Le contenu est à disposition à travers en fait des notices pédagogiques. C'est-à-dire qu'il y a des circulaires, des recommandations qui sont faites aux enseignants en leur disant voilà, quand vous abordez tel thème du programme, ici vous pouvez un peu parler d'esclavage, là vous pouvez introduire tel concept, telle œuvre, etc. Mais après, c'est aux enseignants qui ne sont pas non plus formés pour aborder cette histoire de se débrouiller.
Donc merci beaucoup.
Un des enjeux aussi, c'est de former précisément des enseignants à traiter de manière sérieuse cette histoire.
On va poursuivre tout à l'heure, assurez-vous, professeur Yabara, quelques minutes encore sur cette question du contenu proposé aux élèves quant à l'enseignement de l'histoire et de la traite et de l'esclavage. À tout de suite, restez avec nous.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, ce 10 mai en France. Où en est la France, justement, avec la loi Taubira, qui fait de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité? Et nous en parlons avec trois invités, professeur Aymar Massamba, historien à Brazzaville au Congo, Rudy Kazi Masika, conseiller municipal Saint-Germain-les-Arpajons, ici à Paris, et également à Paris, Hamzat Boukari Yabara, pardon, historien spécialiste de l'Afrique. Je vais vous donner encore quelques minutes la parole, professeur Yabari. Vous étiez en train de parler du contenu, hein, et je demandais comment la décision sur le contenu a-t-elle été prise? Est-ce que les historiens, notamment africains ou des historiens afro-français ont été associés à cette sélection de contenu? Et vous regrettiez aussi le fait que les enseignants n'ont pas été recyclés pour un meilleur enseignement de l'histoire de l'esclavage?
Oui, alors en fait, ce sont des notes de service, notamment de la Direction générale de l'enseignement scolaire, donc du ministère de l'Éducation nationale français, qui fixe les principales lignes, les types d'activités éducatives, les parcours civiques. Et il y a des sites avec des outils pédagogiques qui sont disponibles, et il revient ensuite aux enseignants de se former ou de s'auto-former par eux-mêmes pour aborder avec leurs élèves cette notion. Donc vous voyez bien qu'une grande partie réside.
Il n'y a pas eu de consensus, de débat autour.
En fait, cet enseignement
n'est pas la décision du contenu.
Ce n'est pas un enseignement obligatoire. Donc il est souvent vu de manière très optionnelle et il est souvent mis de côté par des enseignants qui ont souvent un programme à tenir. Il y a le fait également que cette thématique ne sort pas lors des grands examens nationaux et donc forcément elle est très marginalisée. En revanche, on la retrouve au niveau de quelques concours de l'enseignement supérieur de temps en temps et encore. Donc il y a, je dirais, une volonté de mettre à disposition une histoire sans lui donner les moyens d'être à disposition. Et quand je parlais de réparation tout à l'heure, je parle du fait que le fait d'enseigner correctement l'histoire est déjà un premier acte de réparation. Et dans cette volonté de donner à l'histoire de la traite, de l'esclavage et de ses abolitions toute sa place dans l'histoire, il y a des manquements, et ces manquements sont liés au fait que la traite, l'esclavage vont avec la colonisation, et que au moment où la loi Taubira est mise en place, eh bien, on va avoir d'autres contre-lois qui vont apparaître, notamment pour tenter de montrer le côté positif de la colonisation.
Merci.
Donc, il y a des enjeux idéologiques très forts autour de ces ces lois sur l'histoire et la mémoire.
Monsieur Matika, on a entendu le professeur Yabara tout à l'heure dire que bon, les enseignants, cela est laissé à l'appréciation des enseignants, mais sauf erreur de ma part, le texte ou la loi Taubira était censé être plus, disons, plus contraignant, parce que l'article 2 quand même stipule que les programmes scolaires accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'il mérite. Est-ce que ce n'est pas suffisamment clair pour que ce ne soit plus optionnel? Ou c'est le contraire que vous observez sur le terrain?
Écoutez, moi, j'abonde en votre sens. Hein. Ce serait logique que les choses se soient passées comme cela. Mais comme vous savez, il y a la loi et puis il y a l'application de la loi. Il y a beaucoup de lois qui sont mises en place. On parle beaucoup d'arsenal législatif, etc. Même dans le cas de la lutte contre l'insécurité, etc. Qui sont pas toujours qui sont pas toujours utilisées pour agir dans un certain cadre. Et ben, évidemment, dans ce cadre précis, c'est pareil. C'est-à-dire cette loi est quand même arrivé quand même pour donner une orientation humaniste à la France et qui en plus s'inscrivait dans la continuité des droits de l'homme, c'est-à-dire en fait parce que c'est quand même la France l'un des premiers pays à avoir reconnu l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité. Donc une fois qu'on a atteint ce pic, effectivement, ça paraît un petit peu étonnant de voir que ça ne s'est pas traduit par des actions, que ce soit dans l'application de l'enseignement à l'école prenant plus en compte.
Mais qu'est-ce qui bloque justement, M. Matika? On sait qu'il y a eu une forte mobilisation pour qu'on en arrive là, 10 000 signatures, une manifestation monstre qui a contraint le gouvernement de l'époque, en quelque sorte, à voter cette loi. Mais pourquoi est-ce que, malgré cela, il y a comme un freinage? Il n'y a pas cet engouement espéré. Qu'est-ce qui fait problème?
C'est une question de volonté politique, hein, Madame Niacha. Bon, c'est effectivement, le politique le dit. Quand vous regardez la cérémonie de tout à l'heure qui s'est faite sous le patronage d'Emmanuel Macron, je parle de la cérémonie.
Et de Madame Taubira.
Écoutez. Je vais aller un peu plus dans le détail parce que Madame Taubira n'était pas sur place, elle était en duplex. Mmh. Voici ce qui s'est passé. Le président Emmanuel Macron, une semaine après les célébrations qui ont été organisées par rapport à Napoléon Bonaparte et les célébrations qui se sont faites en grande pompe avec tout l'honneur qui est dû à ce grand homme, en tout cas du point de vue de la France, un génie français tel que le président en avait parlé. On arrive 7 ou 10 jours plus tard, à cette commémoration pour le souvenir et l'abolition de l'esclavage, avec un président qui ne dit aucun mot, avec un président qui ne présente aucun discours. Premier étonnement, Madame Taubira, qui aujourd'hui, dans la loi aujourd'hui, est fêtée pour ses 20 ans, ne se trouve même pas sur le sol français. On peut pas dire que ce soit les restrictions par rapport au Covid-19 qui l'ont empêché de voyager. La semaine dernière, j'étais au Congo d'ailleurs, à Brazzaville, un de nos interlocuteurs sur ce plateau y est. Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas sur ce plateau pour être honoré comme il se doit par rapport à une loi qui a quand même fait entrer la France un petit peu plus dans ce combat.
Et vous en déduisez quoi quand vous relevez ces faits ? Qu'elle n'est pas satisfaite de la façon dont cette loi est appliquée ou elle se dit finalement ce sont des symboles et rien de concret finalement ?
C'est effectivement c'est désolant de la part quand même d'un président qui sait souvent trouver les mots pour pouvoir parler. Lui-même il avait dit avant d'être élu en 2017 que la colonisation aussi était un crime contre l'humanité. Donc là il a manqué d'inspiration pour pouvoir brandir des paroles qui sont importantes, notamment pour les victimes de l'esclavage, notamment les
descendants d'esclavage. Qu'est-ce que vous en concluez alors, monsieur Matika, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous en concluez? Écoutez, l'absence de Madame Taubira et puis ce que vous semblez décrire comme du deux poids deux mesures du président Macron face à l'histoire, ces deux chapitres de l'histoire arrivés presque au même moment, c'est-à-dire les 200 ans de Napoléon et puis la journée nationale.
Ce que je déplore là-dedans, en fait, si vous voulez, c'est que peut-être la dimension électoraliste, hein, peut-être qu'elle a pris le dessus sur l'impératif mémoriel à une époque où, effectivement, la France a besoin de faire union, a besoin de faire France commune. On voit toutes les choses qui nous séparent. Le président a mis en place une loi contre le séparatisme. C'était là l'occasion de montrer que la France peut s'unir. Parce que, si vous voulez, ce sont des situations qui touchent finalement tous les Français et les Merci. Conséquences de l'esclavage et aussi de la colonisation, parce que la colonisation a commencé avant l'esclavage, et l'esclavage n'a suivi la colonisation pendant des siècles, et aujourd'hui c'est manquer de faire entrer un peu plus dans l'histoire de France cette capacité à unir. La nation c'est un concept, la nation c'est un concept d'unité de peuple qui ne sont pas forcément liés les uns aux autres pour bâtir un avenir meilleur. Merci. Emmanuel Macron à un an des élections présidentielles, je trouve que là il a manqué une occasion de bien faire, et avec la manière dont Christiane Taubira a quitté le plateau, je pense que ça va faire couler de l'encre et le président de la République va regretter son silence qui a pesé lourd sur la balance.
Merci Monsieur Matika. Alors Monsieur Massamba, voilà, on parle de la France, mais quand cette loi Taubira a été adoptée ici, il n'y a qu'un seul pays africain qui a suivi la France, le Sénégal. Est-ce qu'on peut dire que l'exemple vient d'Afrique si la France, comme le disent des intervenants ici, ne fait pas figure d'exemple dans cette mémoire des victimes de l'esclavage?
C'est là le vrai problème, madame. Le vrai problème. Eh bien, je suis amené à dire que l'exemple vient de l'Afrique. Regardez, madame. Donc, moi, je suis partisan du panafricanisme, et ça, je ne me cache pas. Alors, est-ce que au niveau de l'ONU, de l'OUA plutôt,
est-ce l'Union que nos dirigeants, est-ce aujourd'hui. Que
l'Union africaine aujourd'hui, il y a un silence absolu, madame. Et les voix ne se lèvent pas pour essayer de faire pression sur l'Occident en général. Il n'y a pas que la France, sur l'Occident. C'est l'Occident qui a été à l'origine de l'esclavage, même si il faut le dire que l'esclavage a existé en Afrique avant l'arrivée des Européens. Mais les crimes qui ont été commis pendant la traite négrière, eh bien, ils sont tellement graves. Mais voilà que la France a été le premier pays qui a adopté cette loi Taubira, qui a qualifié l'esclavage de crime contre l'humanité. Mais au niveau de l'Afrique, Que fait l'Afrique dans le cadre du panafricanisme? Rien n'est fait. Aujourd'hui encore, madame, l'esclavage existe. Dans nos différents pays, en Afrique, et on peut dire en Asie, les enfants sont exploités. Les femmes, il y a l'esclavage. Mais que font les Africains? Rien, c'est un silence absolu. Le professeur Théophile Obenga écrit dans son ouvrage intitulé « Appel à la jeunesse africaine », il dit « Lorsque le silence fortifie la nuisance, il commet un crime ». Alors, je ne dis pas que nos dirigeants sont des criminels, mais leur silence est coupable, madame. Nous ne devons pas beaucoup attendre de la France, mais nous devons nous-mêmes aussi prendre des initiatives, parce qu'il s'agit de nous. Il s'agit de notre histoire, d'une page de notre histoire. L'histoire n'est pas seulement le récit des événements passés, l'histoire c'est le récit de ce qui est réellement passé. Même si cette histoire est choquante,
il faut la regarder en face.
Pas, eh bien, il faut la regarder en face, il faut la relater telle qu'elle s'est déroulée. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je ne veux pas accuser le président Macron, mais plutôt mon regard est tourné vers le panafricanisme, vers les Africains, parce que je pense qu'ils ne font rien.
Pour vous, ils ne font pas leur part dans cette sauvegarde de la mémoire sur l'esclavage, ce que vous dites.
Rien du tout, madame.
Merci. Professeur Yebara, hein, je veux poser une question et très rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que la droitisation de la France aujourd'hui est peut-être pour quelque chose dans ce que vous qualifiez de lenteur dans l'application des objectifs que poursuivait la loi Taubira?
Oui, tout à fait. Alors, quelques mois après la loi Taubira, on a eu le 11 septembre 2001 qui venait après la conférence de Durban où on voulait internationaliser les principes de la loi Taubira et poser la question des réparations. Et donc, depuis cette période-là, donc depuis 20 ans, on ne parle que de la guerre contre le terrorisme qui contribue à stigmatiser un certain type de population. Et donc, il y a, je dirais, dans le climat politique des années qui suivent, je parlais tout à l'heure de la loi qui devait rendre positif la colonisation, il y a eu un durcissement et un refus justement de donner du contenu à la loi Taubira en prenant le thème des réparations comme un épouvantail. Les réparations et la repentance, c'est-à-dire que la France n'a pas à s'excuser, la France doit être fière d'avoir fait ce qu'elle a fait. Et donc, on va plutôt prendre...
Mais je disais en même temps, professeur, que sur cette question de réparation, les associations elles-mêmes ne sont pas tout à fait d'accord. Il y en a qui sont pour, d'autres sont contre. Et la position de la France...
La question n'est pas la position des associations. La question, c'est en quoi la France est-elle réellement digne des valeurs qu'elle énonce? Et si elle est digne de cela, elle doit réparer. C'est-à-dire que le crime contre l'humanité, c'est une incrimination qui appelle... donc à sanction et à réparation. On ne vote pas une loi à l'unanimité de ce genre-là si on ne met pas derrière les procédures qui donnent du sens à cette loi.
Mais est-ce que justement, juste un mot, est-ce que à cette époque-là, il y a finalement, elle n'a pas été votée à l'unanimité juste pour à cause de la pression populaire qu'on observait, les signatures, je parlais, qui étaient nombreuses pour demander que cette traite négrière soit considérée comme crime contre l'humanité. Le Parlement était sous pression, les autorités politiques françaises. Est-ce que c'était vraiment pas conviction?
Je n'irai pas jusqu'à dire sous pression, mais c'est évident qu'il est impossible, connaissant la France, qu'une loi soit votée à l'unanimité de cette manière-là. Donc il y a évidemment des lectures différentes des part et d'autre de la classe politique de cette loi. Beaucoup l'ont votée en insistant bien pour que le thème des réparations soit évacué, et d'autres l'ont également votée pour des raisons, je pense, électoralistes. Donc il y avait effectivement des pressions des différents mouvements depuis 1998 et les 150 ans de l'abolition de l'esclavage, puis des mouvements bien plus anciens qui existaient déjà dans les territoires directement concernés par cette histoire-là. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que la France, d'une certaine manière, a effectivement pris les devants du point de vue institutionnel sur cette affaire. Mais il y a d'autres pays, y compris en Afrique, qui n'ont peut-être pas de loi qui aille aussi loin, entre guillemets, mais qui traitent cette problématique de manière, je pense, beaucoup plus intéressante que la France.
Merci beaucoup, messieurs. On va parler juste après quelques minutes de pause de la conclusion de ce débat. Finalement, que peut-on retenir de cette loi Taubira 20 ans après? Et c'est dans quelques petites minutes.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et ce soir, nous faisons le point sur la loi Taubira qui reconnaît la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, qui a 20 ans ce 10 mai, qui est journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Et nous en parlons avec trois invités. Rudy Kazimatika, conseiller municipal de Saint-Germain-les-Arpajons, ici en France. Hamzat Boukari Yabara, historien, spécialiste de l'Afrique. Et professeur Aymar Massamba, historien à Brazzaville, au Congo. Ça va aller très vite. Je commence par vous, M. Kazimatika. En quelques mots, est-ce que vous partagez l'avis du professeur Yabara qui estime que la classe politique ou le président Macron ou les autorités françaises devaient passer outre l'avis des associations qui sont divisées sur la question de réparation et procéder à cette réparation?
Bah, écoutez, oui, ce serait pas la première fois. La réparation, c'est quelque chose qui est important, mais la réparation, elle doit déjà être mémorielle avant de parler de réparation sur le plan pécuniaire. Parce que quand vous prenez en compte effectivement là que par exemple les colons et esclavagistes, que ce soit du côté de Saint-Domingue ou du côté de la Martinique et la Guadeloupe, avaient été indemnisés au moment de l'abolition de l'esclavage, que ce soit pour la première ou pour la deuxième abolition. Quand vous voyez que, par exemple, un pays comme Haïti s'est retrouvé jusqu'en 1950 à payer une dette qui avait été remodulée, mais qui historiquement était une dette payée par rapport donc à ce qu'il devait, entre guillemets, à la France, par rapport à la guerre qui avait été engagée à l'époque avec les Toussaint Louverture, etc.
On a également vu qu'en 1948, lors de l'abolition de l'esclavage, on a accordé des réparations aux propriétaires d'esclaves et rien pour les 250 000 esclaves que comptait la France.
Presque en termes de récupération de terres agricoles, etc., et notamment des terres qui appartiennent encore aujourd'hui aux descendants des colons, donc des esclavagistes, qui ne sont pas des esclavagistes aujourd'hui, mais la question se pose par rapport à ce qui doit revenir à des populations qui ont souffert pour justement enrichir ces personnes qui en jouissent jusqu'à encore aujourd'hui dans leur descendance. Mais avant d'arriver jusque-là, il faut déjà qu'il y ait un peu plus qui soit fait en matière de valorisation, notamment des descendants des esclaves. Lorsque vous regardez bien, c'est-à-dire, on parle de la journée pour le souvenir de l'esclavage et de son abolition. À quel moment est-ce que vous entendez parler des victimes de l'esclavage dans cet item ? Et est-ce que vous trouvez que le souvenir de l'esclavage et de son abolition est suffisamment porté ? Moi, j'ai regardé les chaînes télé en parler. Aujourd'hui, je les ai pas vues en parler, sauf France Info, enfin en tout cas France Télévisions.
Excusez-moi, vous êtes en train de dire vraiment en deux mots. Et puis il nous reste 4 minutes et les autres doivent s'exprimer. En deux mots, M. Matika, vous voulez dire que la loi Taubira n'a fondamentalement rien changé dans les faits, symboliquement?
Comme Pascal Blanchard, mon ami Pascal Blanchard, je vous dirais qu'il y a des changements qui ont été opérés, parce que quand vous regardez la colonisation finalement, enfin la décolonisation finalement, c'est encore tout récent. L'esclavage, l'abolition de l'esclavage finalement, c'est un peu plus d'un siècle, et l'esclavage a duré 4 siècles sur l'échelle européenne, donc peut-être qu'il faut encore un peu plus de temps pour aller plus loin en termes de réparation et mémorielle et pécuniaire. Donc là, on est peut-être encore à la moitié du chemin, il y a encore du travail à faire, mais lorsque vous vous confrontez à une classe politique qui, pour la plupart, a été abreuvée par une histoire positiviste, notamment de la colonisation, comme ça a été dit par un de mes confrères ce soir, c'est difficile de faire entrer dans leur vision des choses le point de vue des descendants d'esclaves qui aujourd'hui portent dans leur corps et dans leur chair la difficulté.
On va laisser une minute à M. Massamba. Vous aussi, vous pensez qu'il faut procéder aux réparations, ce n'est pas l'avis d'Aimé Césaire, donc qu'on ne présente plus sur la question, ou encore de Madame Taubira qui estime que on ne peut pas réparer ce crime ni ramener les vies perdues ou rembourser les générations de travail gratuit.
Madame, un premier pas a été marqué grâce à la loi Taubira. Et je ne suis pas partisan de la réparation, mais je pense plutôt que nous devons regarder en face, s'appuyer sur ce passé pour aller de l'avant, au lieu de penser aux réparations qui n'amèneront nulle part.
Merci beaucoup. Et vous, professeur Yabara, finalement, que peut-on dire 20 ans après cette loi Taubira. En deux mots, qu'est-ce qu'elle a apporté et qu'est-ce qu'il reste à faire pour qu'on aille aussi loin dans la mise en œuvre de ces objectifs, des objectifs de cette loi ?
Je dirais que cette loi a permis à la République de se repositionner au centre du débat, alors que ce n'est pas la République qui fondamentalement abolit l'esclavage, c'est les luttes et les résistances des esclaves. Et donc il y a quelque part une forme d'usurpation historique et mémorielle qui est faite. Il faut se rappeler la manière dont les militants sont exclus de toutes les commémorations nationales par l'État français. Donc je pense qu'il y a là un véritable déni de démocratie en tant que telle et que la France a probablement manqué à travers une loi réellement complète la possibilité non pas de reconfigurer la domination qui est héritée de l'esclavage mais de la déconstruire fondamentalement.
Oui, qu'est-ce que vous attendez pour aller plus loin dans cette loi ? Les objectifs étaient clairs.
Les objectifs étaient clairs, mais les objectifs ont été élagués dès le départ. C'est encore une fois la question des réparations. Je pense qu'on ne peut y faire abstraction et elle reviendra parce qu'il y a des mouvements.
Excusez-moi, cette loi ne parle pas de réparation, professeur. Cette loi parle de contenu éducatif, de recherche universitaire. C'était ça le je demandais par rapport à ces, parce que même ces aspects-là ne sont pas mis en œuvre. Vous l'avez dit.
Alors, écoutez, il y a des centres dans lesquels on peut étudier, faire des recherches sur l'esclavage. On peut faire des thèses sur l'esclavage. Il y a des travaux qui se font, qui n'ont même pas besoin de la loi en tant que telle. La problématique, c'est que nous sommes sur une loi qui est fondamentalement politique et qui, quelque part, répercute, je dirais, un certain nombre d'inégalités structurelles dans le temps présent, alors qu'elle avait la possibilité d'être une véritable loi d'égalité. Donc pour beaucoup de personnes qui ont soutenu cette loi, aujourd'hui cette loi est dépassée et il faut la repenser fondamentalement. Et je pense, je n'ai pas vu le comportement de Christiane Taubira, mais je pense qu'elle-même est la première à comprendre en quoi cette loi a été quelque part neutralisée par le système politique et en quoi il est important aujourd'hui d'avancer et de faire en sorte que ce qui n'a pu aboutir à travers cette loi aboutisse à travers d'autres combats législatifs, juridiques ou pédagogiques.
Vraiment, en deux mots, M. Matika, qu'est-ce que vous attendez dans les jours qui viennent ou les années qui viennent d'Emmanuel Macron, par exemple, pour aller plus loin ?
Écoutez, en matière de lutte contre la discrimination, de lutte contre le racisme, il est important justement d'aller plus loin dans la connaissance de l'esclavage et des conséquences de l'esclavage qui sont effectivement le racisme et tout un tas de discriminations que peut subir un certain nombre de populations en France, en tenant compte du fait que il est déjà dans une démarche mémorielle, que ce soit au travers de la guerre d'Algérie, de la déclassification notamment d'un certain nombre d'éléments par rapport au génocide rwandais. Donc on attend de lui qu'il aille beaucoup plus loin et il lui reste peu de temps, il lui reste un an pour pouvoir le faire, mais compte tenu effectivement des engagements.
Je suis désolée, le temps est terminé. Je vous avais dit un mot, M. Matika. Merci d'avoir suivi cette édition du Grand Rendez-vous. Bonsoir.